Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités, c'est le titre de l'ouvrage de l'invité de Radio Présence. Ce sera aussi le sujet de sa conférence aux Veilleurs de Bigorre, mardi 7 mai. Adrien Bourg, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes historien à l'université de Bordeaux-Montaigne. Merci de votre présence ce matin. Vous parlez dans votre ouvrage du yoga, de la méditation de pleine conscience, du chamanisme, des énergies, et vous les appelez des nouvelles spiritualités. À vous lire, elles ne sont pas si récentes. Qu'est-ce qui a permis qu'elles prennent autant d'importance aujourd'hui?
Alors c'est tout l'un des enjeux en tout cas de mon ouvrage, c'est justement d'essayer de comprendre comment ce phénomène est devenu si massif, parce que je pense que n'importe quelle personne aujourd'hui, par différents moyens, peut s'en rendre compte, l'omniprésence du yoga, de la pratique du yoga autour de nous, le succès de toute une littérature de développement personnel, etc. Et on voit assez aisément que toute cette littérature est colorée d'éléments qui appartiennent justement à ce qu'on appelle l'ésotérisme, alors ça mériterait d'être défini. Et justement, l'un des enjeux de mon ouvrage, c'est d'essayer d'expliquer la manière, les chemins qu'ont suivis ces courants spirituels pour devenir aujourd'hui si populaires et si importants dans le paysage religieux actuel.
Vous dites « Chacun doit suivre son cœur et sa voie personnelle sans contrainte, en piochant ce qui est bon pour lui, dans le grand réservoir des croyances et des pratiques de l'humanité. Toute religion possède une part de vérité. Aucune ne peut prétendre être le seul chemin, pas même le meilleur chemin. » Alors ça, ce n'est pas exactement vos propos, mais c'est ce que vous dites de ce que disent ces nouvelles spiritualités.
Tout à fait. C'est l'un des traits qui est peut-être le plus frappant, c'est le côté déjà syncrétique de ces nouvelles spiritualités, c'est-à-dire l'impression qu'elles vont piocher dans tous les courants religieux, spirituels de l'humanité, sans trop se préoccuper de cohérence. Donc, voilà, on va picorer un petit peu de soufisme, un petit peu de technique de yoga, un petit peu de... Maintenant, ce sont les Toltecs, avec le succès du livre Les Quatre Accords Toltecs, etc. Bon, voilà, il y a ce côté syncrétique, et puis il y a ce côté... Le terme, je vais essayer d'employer dans un ton un peu neutre, relativisme, c'est-à-dire la vérité est relative à la personne qui parle, à la personne qui pratique, etc. Alors ça, on pourrait considérer que c'est simplement les points d'accord de ces spiritualités avec l'ère du temps relativiste, justement, donc ce qui conditionne leur succès, ce qui permet leur succès aujourd'hui. Mais quand on regarde un peu plus près, on se rend compte justement que ça s'inscrit dans une logique de fond qui est beaucoup plus profonde que les simples caractéristiques de notre époque, et qui s'explique par le caractère gnostique. Alors j'essaie d'expliquer ce mot, si vous voulez, l'idée de réalisation par la connaissance et l'idée que l'être humain aurait en soi, sans qu'il y ait besoin d'un salut qui vienne de Dieu,
d'une révélation,
extérieur, aurait en soi le divin, aurait en soi les possibilités suffisantes pour se libérer du mal et pour accéder à une forme de réalisation spirituelle parfaite. Et on retrouve donc des formes vulgarisé, atténué de cette idée dans les pratiques justement grand public à l'heure actuelle.
Quand vous parlez de syncrétisme, c'est pour dire qu'en fait il y a un assemblage de croyances et de pratiques qui viennent donc de chacun et non pas d'une révélation.
Voilà, alors il faut regarder au cas par cas, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fonction des courants, ça va se présenter différemment, mais généralement, on va avoir l'impression que le discours qui est tenu fait que n'importe qui peut, sans conséquence, sans risque, piocher un peu à sa guise dans le grand réservoir des croyances, des pratiques de l'humanité passée et présente, voilà. Et donc syncrétisme parce que mélange de formes religieuses. Et après, le rapport à la révélation est un petit peu compliqué parce que justement il ne va pas y avoir dans ces spiritualités l'idée d'un Dieu qui est personnel et qui crée le monde et qui crée des êtres par un acte volontaire, ce qui est la perspective biblique, et qui va ensuite les sauver dès lors que ces créatures se sont éloignées, détournées de lui. Ça, c'est toute la révélation biblique et le salut tel qu'il est pensé par la foi chrétienne. Dans ces courants, on va plutôt penser les choses comme, c'est l'héritage néoplatonicien et gnostique de ces pensées, comme l'idée que il y aurait un grand tout, une espèce de grand océan d'énergie, de lumière, tout ce qu'on veut, que nous ne serions qu'une parcelle de ce grand tout et que le chemin spirituel consisterait à en prendre conscience et donc à accéder à une forme d'illumination intérieure qui n'a pas besoin de révélation, qui n'a pas besoin d'un Dieu sauveur, qui n'a pas besoin encore moins de sacrements, de clergé, etc. Donc c'est très séduisant pour une époque justement individualiste parce qu'en gros, on vous explique que chaque personne peut en picorant à sa guise dans un grand réservoir, éventuellement en faisant des stages, en se mettant à l'école de tel ou tel maître, mais c'est un peu facultatif, accéder à une forme d'illumination qui serait même mieux que le salut tel que le pense la foi chrétienne. Donc voilà, c'était cette élément de salut par ses propres forces, par des techniques, par etc.
Adrien Bourg, pourquoi vous parlez de séduction? Pourquoi les nouvelles spiritualités séduisent autant aujourd'hui? Pourquoi elles attirent?
Alors, c'était même le titre initial que j'avais proposé à Arthej pour mon livre, c'était la
Ah oui.
séduction ésotérique.
Ah.
Finalement, ils ont choisi le défi des nouvelles spiritualités qui porte un petit peu la même idée. Ce que je voulais faire sentir en employant ce genre d'expression ou de terme, séduction, défi, c'est pas simplement quelque chose qui advient comme ça dans l'histoire, comme une espèce de déroulement logique de l'histoire religieuse. C'est un peu le discours qui va être porté par une certaine sociologie des religions. Voilà, ce sont les formes spirituelles qui correspondraient le mieux à notre époque, à l'ultramodernité, etc. Moi, ce que je tiens à montrer, parce que l'histoire permet de l'établir de façon très nette, c'est que ces courants ont une action dans l'histoire portée par des acteurs très volontaires, très déterminés, très prosélytes, avec des charnières où ces courants accèdent à une popularité croissante. Ça ne survient pas comme ça, comme un espèce de hasard ou comme une espèce de sens de l'histoire. C'est vraiment inscrit dans un déroulement historique porté par des acteurs qui combattent même parfois assez vigoureusement les religions instituées. Et donc cet aspect de séduction ou de défi, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose d'actif dans ces courants et de structuré, de cohérent et de prosélyte en réalité. Et qu'il ne faut pas prendre ça simplement comme quelque chose qui adviendrait un peu par hasard dans l'histoire religieuse, quoi.
Elles attirent parce qu'il y a une forme de liberté qui ne peut pas être forcément comprise dans la religion catholique, par exemple.
Alors ça, c'est l'argument qui va être utilisé par les porteurs de ces courants. Est-ce que cet argument est juste ou pas? À mon avis, non, parce que quand on commence à regarder de près les ascèses et les impératifs auxquels se contraignent les personnes qui adhèrent à ces spiritualités de façon un petit peu sérieuse, sont en général beaucoup plus rudes, beaucoup plus strictes que ce que demande la foi catholique. Alors après, ça s'accorde mieux avec l'air du temps sur certains points, par exemple pour la question de la liberté sexuelle. Est-ce que le mariage est indissoluble? Est-ce qu'on se marie avec une personne pour toute sa vie ou est-ce qu'on peut vagabonder à droite à gauche? Bon, là, il y a tout un discours justement sur la valeur des expériences, la multiplicité des expériences qui correspond un petit peu avec la multiplicité des stages qu'on va suivre, des maîtres auxquels on va à l'école de qui on va se mettre, qui là s'accordent très bien avec l'air du temps. Par contre, au niveau des pratiques, au niveau de la logique interne de ces pensées, c'est beaucoup plus, j'ai employé un mot fort, hein, aliénant dans un sens, parce que autant dans la foi chrétienne, on va accueillir le salut que Dieu offre gratuitement, autant dans ces techniques, on va penser que le salut doit se gagner à la force
Ça
la
dépend de
force du
nous, ça
poignet, j'ai
dépend
envie
de
de
l'homme.
dire, au forceps, et donc par la multiplication des techniques, des stages, des pratiques, etc. Donc on rentre dans une spirale sans fin où finalement on peut jamais en sortir parce que de toute façon, l'horizon qui est proposé, il y a quelque chose de mensonger. On ne peut pas se sauver soi-même. L'homme n'a pas en lui-même la possibilité de se libérer du mal.
Est-ce que c'est ce découragement qui peut poindre justement à force de chercher sans trouver et de chercher en soi? Est-ce que c'est justement un des dangers de ces nouvelles spiritualités?
Alors, je pense que le danger ultime, effectivement, c'est le désespoir, parce que le problème, c'est que dès lors qu'on est rentré dans cette logique de chercher le salut, au fond, là, forcément, c'est un chrétien qui parle, donc pour moi, l'horizon ultime est clair, c'est d'accueillir le salut, la libération du mal qui est offerte par Dieu lui-même, à la fois à l'échelle personnelle et à l'échelle collective dans l'histoire. Le problème, c'est que dans ces courants, il y a un discours, et c'est inscrit dans la logique profonde de la forme de pensée ésotérique. C'est un discours qui va se présenter comme surplombant, qui va proposer plus et mieux que les voies institutionnelles, ou en tout cas prétendre proposer plus et mieux. Ésotérique parce qu'on prétend porter la voie intérieure, éso intérieure, donc qui serait le cœur le plus vrai, le plus profond des religions, et même c'est un discours qui peut se plaquer sur des réalités scientifiques. On va vous prétendre dire plus et mieux que les scientifiques qui travaillent sur les sujets en question. Donc ce discours, le problème c'est que évidemment, quand on est dedans, ça donne l'impression d'être dans un dépassement, d'avoir plus et mieux que les personnes qui sont inscrites dans une religion classique ou qui sont inscrites dans l'adhésion à quelque chose qui se transmet de façon traditionnelle, là on va penser à être au-delà. Le problème c'est que c'est faux. Quand on regarde historiquement, c'est un discours une forme de malhonnêteté, de publicité mensongère en réalité. Et donc les personnes qui adhèrent à ce discours et qui en sentent les limites vont être piégées d'une certaine manière, parce qu'elles vont avoir l'impression d'être déjà au-delà de ce que proposera le christianisme, par exemple.
Ah oui.
Or, elles sont en deçà, mais elles ne peuvent pas s'en rendre compte. Pour s'en rendre compte, il faut qu'il y ait un travail de remise en question, de retour sur soi, pour prendre conscience que justement, elles pensaient savoir ce qu'enseignait le christianisme, en réalité, ce qu'on leur en présentait dans ces courants était faux. Voilà.
Et vous dites dans votre ouvrage qu'il est nécessaire de briser les idoles. C'est donc à une prise de conscience que vous appelez. Comment peut-elle se faire, Adrien Bourg?
Alors là, d'un cas à l'autre, ça demandera de regarder ce par quoi sont passées les personnes, ce par quoi est passée telle ou telle personne, et je pense que là, il n'y a pas de chemin. Alors, je peux parler de mon cas. Moi-même, je suis un double converti, si on peut dire, parce que je venais du monde athée, et les premières propositions religieuses qui m'ont été faites un petit peu sérieuses quand j'ai commencé à chercher le sens ultime de l'existence, ça a été de l'ésotérisme.
Oui.
Ésotérisme savant, René Guénon et toute l'école qu'il y a autour de ce courant de pensée, donc une réactivation de la gnose dans notre époque. Et moi, donc, pour la remise en question de cette première proposition est venue justement par la prise de conscience du fait que ça ne répondait pas au fond à la question du mal, ou qu'en tout cas la réponse à la question du mal qui était donnée n'était pas satisfaisante, puisque le mal était réduit à une espèce comment dire, d'illusion dans l'histoire, le fait d'une manière de voir qui était limitée. On vous dit, voilà, le bien et le mal, c'est relatif, et quand on
Oui.
accède à l'illumination par la gnose, on se rend compte que ça n'existe pas. Or, dans le déroulement de l'histoire, on voit bien que le mal a une existence très réelle, très concrète, et qu'on l'éprouve à la fois dans notre vie, à la fois collectivement. Donc, moi, c'était cette prise de conscience, et en même temps, la découverte de la réponse chrétienne à la question du mal, par Bernanos, par Saint-Augustin, par des lectures qui m'ont bouleversé à l'époque, et puis après donc par l'approfondissement de ce que disait la foi chrétienne sur le sujet. Mais voilà, c'est que mon cas particulier, pour d'autres personnes, ça passera par de tout autres chemins, par la prise de conscience que la multiplication des stages, la méditation pleine conscience, où on cherche à faire le vide en soi, ce qui est une absolue impossibilité, ne marche pas, et où là, peut-être, les personnes prennent conscience qu'elles ont besoin de la voix de Dieu, de ce silence doit aboutir à l'écoute de la voix de Dieu qui vient dans leur vie et qui, peut-être, les appellera à un autre chemin que ce vide, que cette pleine conscience, qui sont, à mon sens, des impasses.
Alors, vous êtes le premier convaincu, et maintenant, en tant que chrétien, vous pouvez témoigner que ces nouvelles spiritualités ne mènent à rien et mènent au désespoir, justement. Comment peuvent témoigner les chrétiens de façon plus générale face à ces nouvelles spiritualités et tout l'attrait qu'elles ont?
Alors je pense qu'il y a un témoignage qui est tout à fait involontaire, mais qui est donné par la simple vie chrétienne ordinaire, c'est justement la communion, la vie de communion. Puisque l'horizon ultime qui est proposé par notre foi, ce n'est pas de se dissoudre, il y a cette image de la vaguelette qui se dissout dans le grand océan, ce serait ça l'horizon qui serait proposé par la prise de conscience du fait que nous ne sommes qu'une parcelle ou une petite vaguelette du divin. La foi chrétienne propose tout autre chose. Elle propose d'entrer dans une communion, la communion des saints, et d'entrer donc ultimement dans la communion qui est l'essence de Dieu lui-même. Notre Dieu, le Dieu auquel nous croyons, est un Dieu personnel et qui est communion de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le salut qu'il nous propose, c'est d'entrer dans la vie qui est sa vie divine, qui est la vie au sens plein du mot, qui est cette éternelle communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et là, je pense que quand nous vivons vraiment notre vie chrétienne telle qu'on la voit dans les évangiles, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on reconnaîtra que vous êtes
Mes
fils de Dieu.
disciples.
Je pense qu'une vie de paroisse où les gens se connaissent, s'entraident, ont une vraie vie fraternelle. Pour des chrétiens, ça paraît tout à fait évident, parce que c'est la vie, voilà, c'est la vie courante, normale. Pour des gens qui viennent du monde du New Age, où les stages éphémères ne produisent que des rencontres éphémères, où tout est très mouvant, très instable, où justement il n'y a pas tout ce discours sur la nécessité de fidélité dans la relation amoureuse, où la durée a beaucoup moins d'importance, la structuration, la construction sur la durée. Je pense que la vie de paroisse, quand elle est bien vécue, dans la fraternité, dans l'amour, dans la paix et l'entraide mutuelle, etc., une communauté entière tournée vers Dieu et tournée vers cet horizon du salut personnel et collectif. Je
Ça,
pense que
c'est un beau
c'est un beau
témoignage.
témoignage et je pense que s'il y avait, mais c'est involontaire finalement, c'est quand la vie chrétienne est pleinement vécue, bien vécue, que les chrétiens rendent ce témoignage assez naturellement et spontanément par le simple fait de leur vie chrétienne, quoi. Mais
Merci,
ça se
merci
travaille,
beaucoup. Oui,
Pierre-Claire.
ça se travaille. Oui, merci beaucoup, Adrien Bourg. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, s'il en est, Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités, aux éditions Arthège, et la conférence que vous donnez le 7 mai aux Veilleurs de Bigorre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Isabelle Chine.